Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, la plus ancienne église en bois d'Amérique du Nord pourrait bien disparaître. Le donateur qui avait promis 10 millions de dollars pour la réfection de l'église Sainte-Marie de la Nouvelle-Écosse a pris la clé des champs.
Quand on avait vu cette offre-là, on pensait que c'est la réponse à nos prières. Là, on est extrêmement désappointé et découragé.
Une auteure de Matagami fait plaisir à son fils et signe deux livres pour enfants avec des zombies en vedette.
Le titre le dit, là, c'est l'histoire de la fête de Zaki le zombie qui fête sa fête avec ses amis dans une forêt enchantée. J'ai eu l'idée de le faire publier par Amazon. J'ai pris le risque et ça a fonctionné.
Au Nouveau-Brunswick, des élèves du primaire et du secondaire se préparent au marché du travail, une foire de l'emploi organisée juste pour eux.
Ça attire les jeunes. Ils veulent aller voir qu'est-ce que c'est. Il y a de l'emploi partout aussi. Si quelqu'un veut travailler, de l'emploi.
En Ontario, on s'attaque à la violence faite aux femmes et aux hommes.
Quand les hommes, ils viennent, généralement, sont au bout, là. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, puis c'est comme ils ont besoin de l'aide maintenant, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent.
Et deux Guinéens à la recherche de deux familles pouvant les héberger durant leurs études secondaires.
C'est d'accueillir un jeune qui fera partie de votre famille, quoi.
Ceci est un peu plus à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter. @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Salut, merci de nous tenir compagnie. Eh bien, mauvaise nouvelle pour le diocèse de l'Église Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Le donateur anonyme qui avait, il y a quelques mois, offert 10 millions de dollars pour sauver l'Église Sainte-Marie à Pointe de l'Église en Nouvelle-Écosse demeure introuvable. L'avenir de la plus grande église en bois construite en Amérique du Nord fait une fois de plus face à un avenir incertain. L'Église Sainte-Marie, construite entre 1903 et 1905 par des Acadiens de la région, est l'une des plus importantes structures de la Nouvelle-Écosse, notamment en raison de son architecture. Le président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie, Pierre Comeau, a la mine plutôt basse, déçu par le silence du donateur original, qu'il croyait de bonne foi. Il souligne que le diocèse doit maintenant envisager toutes les options pour le bâtiment, y compris sa destruction complète. En attendant, le toit du bâtiment continue de couler et d'endommager la structure. L'église n'est plus utilisée pour des cérémonies religieuses depuis Noël 2019. Daniel Aucoin-Chétiquan, Nouveau-Brunswick, discute de l'avenir de l'édifice Sainte-Marie avec Pierre Comeau.
Monsieur Comeau, on sait qu'un don potentiel de 10 millions de dollars pour réparer l'église Sainte-Marie de Pointe de l'Église ne s'est pas concrétisé. Avec la disparition du bienfaiteur, l'avenir de l'édifice demeure donc en suspens. Comment on se sent du côté de la société Édifice Sainte-Marie maintenant que l'offre a été retirée?
Bon, ben ça cause des hauts et des bas. Quand on avait vu cette offre-là, on pensait, ben pour se servir d'un thème théologique, c'est la réponse à nos prières. Mais là, quand rien arrivait, puis là que le supposé bienfaiteur a arrêté tout contact avec le diocèse d'Halifax et Yarmouth et finalement ils ont conclu qu'il avait retiré son offre. Donc là, on est extrêmement désappointé et découragé.
Est-ce que la communauté a eu des discussions sur la structure depuis que vous avez appris que l'offre n'existe plus?
Ça a été annoncé, c'est pas mal bien connu. L'évêque d'Halifax avait fait une tournée pastorale ici il y a quelques semaines, puis il avait dit que l'offre était plus là, oui.
Est-ce que la population locale désire quand même toujours conserver l'édifice?
On aimerait ça, mais étant donné qu'on avait travaillé pendant plusieurs années et que nos démarches, on avait fait des plans et des affaires, mais ça ne va pas aboutir à grand chose. Je pense que la population est pas mal bien, va accepter avec regret qu'est-ce qui va arriver maintenant.
Est-ce que le diocèse parle encore d'une vente de l'édifice?
Je pense que oui. Comme après-demain, c'est-à-dire jeudi, Il va avoir la messe finale de déconsécration pour déconsacrer l'église Sainte-Marie. Après cela, ça sera certainement plus une église qu'on pourra avoir des services de culte dedans.
On sait que l'église Sainte-Marie monte son âge par sa condition générale. Le bâtiment n'a plus de vocation religieuse depuis 2019. Est-ce que c'est quand même important de continuer à travailler pour préserver le bâtiment?
Ça sera bon de continuer à travailler. Cependant, je sais pas si... Je pense que nous autres, notre société, on a fait ce qu'on a pu, et puis si quelqu'un d'autre veut prendre la relève ou travailler avec nous autres, on pourra collaborer avec eux autres. Mais je pense que le diocèse pense de mettre l'édifice en vente après la déconsécration. Il y a un musée d'articles religieux dedans on va sortir les articles qui sont là et les mettre en entreposage d'un autre édifice. Et puis là, je pense qu'ils vont la mettre à vendre, voir, et puis là, on verra qu'est-ce qui va venir de ça. Ben, c'est difficile d'être vraiment optimiste maintenant.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chética, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Au Nouveau-Brunswick, mais pas là seulement, on commence très tôt à intéresser les jeunes au milieu du travail, et alors qu'ils n'ont même pas traversé la puberté. C'est le cas à l'école Carrefour Beau-Soleil qui organisait le 22 novembre dernier son premier salon de l'emploi dédié aux jeunes de la 6e à la 12e année. L'école a invité une dizaine d'exposants à présenter en kiosque les différents aspects de leur profession. Les jeunes ont été très attirés notamment par la présentation d'un monteur de ligne d'énergie Nouveau-Brunswick, lui qui a attiré beaucoup de curieux. Pour Marie-Hélène Ferguson, conseillère en orientation de l'école Carrefour Beau-Soleil, les ouvertures pleuvent dans la région de Miramichi et il faut, semble-t-il, s'y prendre très tôt pour convaincre les jeunes de rester dans la région. Vincent Lavoie.
L'école du Carrefour Beau-Soleil organisait mercredi sa première foire de l'emploi pour les jeunes de la 6e à la 12e année. Une dizaine d'exposants ont monté leur kiosque pour présenter divers aspects de leur métier. Voici la conseillère en orientation Marie-Hélène Ferguson de l'école du Carrefour Beau-Soleil.
C'est des gens qui font divers métiers, qui viennent présenter un peu leur parcours, leurs tâches, comment ils se rendent, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, pour permettre à nos élèves de mieux explorer et mieux voir toutes les opportunités qui s'offrent à eux en termes d'emploi futur.
L'engouement des jeunes était d'ailleurs très présent.
Quand il y a des kiosques puis les gens portent du matériel, comme plusieurs de nos partenaires ont fait aujourd'hui, ça attire les jeunes. Ils veulent aller voir qu'est-ce que c'est. Fait que j'ai un monsieur qui est ici, monteur de ligne, pour nous montrer un peu comment lui travaille, puis apporter une structure avec lui, puis les élèves peuvent l'essayer. Et ça attire beaucoup les gens. Moi, une madame ici qui est designer intérieur, elle a apporté plein de matériel avec elle aussi. Ça aussi, ça attire beaucoup l'œil des élèves d'être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, puis quel genre de matériel vont travailler avec s'ils font un emploi similaire.
Bien qu'il soit plus difficile pour Mme Ferguson de dresser un portrait du marché de l'emploi pour la région de Miramichi, ce ne sont pas les opportunités qui manquent, selon elle.
On recherche toujours des gens, tout ce qui est domaine de la santé, éducation également, c'est des domaines en grande demande, mais vraiment, il y a de l'emploi partout. Si quelqu'un veut travailler, il y a de l'emploi.
Une autre foire de l'emploi est prévue de prendre place au mois d'avril. Bien qu'elle se réjouisse de la diversité des partenaires présents cette fois-ci, Mme Ferguson se veut confiante d'en avoir encore plus d'ici là. Ici Vincent Lavoie pour IGL à Miramichi.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Les 16 jours de lutte contre la violence fondée sur le sexe ont été lancés le 25 novembre dernier dans le cadre d'une campagne internationale annuelle de la Journée internationale des droits de la personne qui doit culminer d'ailleurs le 10 décembre. Cette campagne a été lancée en fait en 1991 pour souligner la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée en 1948 par les Nations unies. Pour les organisations impliquées, c'est l'occasion de rappeler les avancées mais aussi le travail qui reste à faire faire, notamment pour éliminer la violence dont les femmes, filles et membres de la communauté LGBTQ+ sont victimes. Au Canada, plusieurs organisations profitent de ces 16 jours pour aussi rendre hommage aux 14 femmes qui ont été tuées le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Le reportage de Marie Hillès à Ottawa.
La violence faite aux femmes, ce n'est pas un problème isolé, c'est un problème de société. Donc, il faut que les gouvernements, oui, mais il faut que monsieur, madame, tout le monde se mobilise. Il faut sensibiliser les gens que ça arrive chez nous.
Le 25 novembre commencent les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre. C'est une campagne internationale qui donne l'occasion de réfléchir aux actions que la communauté peut poser pour éliminer la violence dont les femmes, les filles et les membres de la communauté LGBTQIA2S+ sont victimes. Muriel Lalonde, présidente de la coalition Prescott Russell pour éliminer la violence faites aux femmes.
C'est pas juste dans les grandes villes, c'est pas juste dans les grandes rues. Ça se passe dans nos villages, chez nos voisins. Il faut intervenir, il faut pas fermer les yeux, il faut apprendre sur la problématique et intervenir quand on peut intervenir. Donc, les 16 jours nous servent beaucoup de temps d'arrêt dans l'année, en fait, pour vraiment mettre l'accent justement sur la sensibilisation, la prévention, l'éducation. On utilise les 16 jours d'activistes pour justement faire des activités, faire plus de promotion à ce niveau-là et tout ça. Et puis tout ça en lien avec le 6 décembre qui est la vigile, en fait, pour en fait faire un clin d'œil à toutes les femmes qui sont décédées au courant de l'année, mais aussi également très spécifiquement par rapport à la tuerie de la Polytechnique qui a eu lieu plusieurs années passées. Donc, on fait un clin d'œil à ces dames-là qui ont perdu la vie tout simplement parce qu'elles étaient femmes.
Muriel souligne les différents types de violences que subissent les femmes.
Il y a énormément de différentes façons que les femmes vivent de la violence, que ce soit psychologique, financière, l'isolement... La violence se manifeste de différentes façons, de partenaires ou de, des fois c'est des enfants qui abusent aussi de leur situation avec leurs parents âgés. Donc ça l'inclut tout ça. Et puis les chiffres sont très alarmants, dans le sens que ça ne cesse que d'augmenter. Les femmes vivent de plus en plus de difficultés. Donc on parle de santé mentale, on parle de problèmes de toxicomanie, on parle l'itinérance qui est le buzz du jour. Les logements, c'est définitivement un problème. Donc, pas de logement, donc les femmes sont doublement, triplement à risque au niveau de la violence. Donc, ça l'amplifie la problématique, en fait.
Quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur le terrain?
En fait, les différentes problématiques que nous on rencontre dans la région de Prescott Russell et SDG, qui est Stoneman, Dundas, Glengarry, donc vraiment des milieux ruraux, c'est très différent. Tout en même temps, ça se ressemble. En fait, nous, dans la région, on n'a pas de transport en commun. Donc, une femme qui habite, exemple, à Saint-Eugène ou à Sainte-Anne, n'a pas nécessairement le moyen de se déplacer vers une ville genre Hawkesbury, Amherst, Rockland ou Cornwall, pour aller chercher des services comme tel. Donc ça, c'est problématique. Au niveau du logement, on n'a pas des développeurs ici qui développent des 200 unités comme dans la région d'Ottawa ou Toronto. Donc ici, c'est plus des petits développeurs, sans aller dans la grosseur du développeur comme tel, mais tu sais, on voit pas ça. On voit pas des édifices qui se font bâtir, qui vont aller chercher du logement, puis encore moins du logement abordable, évidemment. Les régions rurales sont beaucoup laissées de côté de cette façon-là. Puis une des problématiques, c'est les gouvernements. Les gouvernements semblent pas penser qu'après Ottawa et Toronto, qu'il y a d'autres choses. Donc, évidemment, ça nous cause problème parce que quand il y a des initiatives financières ou autres, on pense rarement à les régions rurales comme les nôtres, malgré les revendications, malgré tout ce qu'on peut dire ou les mobilisations qu'on tente de faire. On ne lâche pas de revendiquer pour notre région, mais ça rend les choses plus compliquées.
Pour terminer, elle ajoute la chose essentielle à faire.
C'est de croire. Souvent, les gens ont peut-être tendance à minimiser certains commentaires. Alors, parfois, les victimes ils vont pas nécessairement arriver avec toute leur histoire d'un coup. Ils vont donner des signes, ils vont poser certaines questions, ils vont agir d'une certaine façon. Je pense que c'est d'être vigilant et de croire que ça peut arriver, puis de croire justement la personne qui finalement décide de dévoiler ou de signaler.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJM.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Et le Centre de counseling familial de Timmins en Ontario offre des services d'aide aux femmes, mais aussi aux hommes victimes de violences et dont la proportion, semble-t-il, ne cesse de croître. Le Centre de counseling familial de Timmins est l'un des rares centres à répondre aussi aux besoins des hommes dans le nord de l'Ontario. Tania Duguay, directrice du centre, ajoute que lorsque les hommes demandent de l'aide, c'est qu'ils n'ont plus d'autre choix que de crier à l'aide. De Kapuskasing en Ontario, voici Pierre Floria.
Les hommes victimes de violences peuvent obtenir de l'aide du Centre de counseling familial de Timmins, qui est un des rares à offrir ce service dans le nord de l'Ontario. Tania Duguay est directrice du centre. Elle explique qu'à travers le système judiciaire, les hommes doivent participer au programme des partenaires violents, que ce soit en raison de violences dans l'enfance ou de violences sexuelles. Ils peuvent obtenir des services subventionnés par le ministère et l'aide offerte, mais quand il s'agit de violences physiques ou émotionnelles, les services ne sont pas subventionnés.
Alors, les hommes vont venir, des fois ils vont rentrer s'ils ont un programme avec leurs employeurs ou s'ils ont des bénéfices ou s'ils sont capables de payer pour les services. Ils vont pouvoir aller chercher les services. Mais ceux qui viennent au centre et qui ne sont pas capables de payer pour les services, on a des dons, on a des donations. So on fait jackpot time ou que notre staff va faire du bénévole. Puis avec ces parts-là, on paye pour des services que les gens ne peuvent pas payer. Puis beaucoup, 50% qui sont sur ce programme-là, sont des hommes.
Mme Duguay précise qu'au-delà des levées de fonds et des fonds reçus de Centraide pour le Centre de counseling familial de Timmins, elle note que plusieurs centres ne reçoivent pas de fonds et ne sont donc pas en mesure d'offrir des services aux hommes victimes de violences. Elle rappelle que nous vivons dans une société patriarcale et que les stéréotypes tels que les hommes ne pleurent pas existent encore et la société ne change pas rapidement. Quand elle a débuté en 2003, la clientèle de Mme Duguay était 90% de femmes, 10% d'hommes, tandis qu'aujourd'hui, c'est 40% d'hommes et 60% de femmes.
Mais comme tu dis, ça vient plus quand ils sont comme à bout. On voit qu'il y a eu un chiffre où que les hommes y viennent, mais c'est ça, quand les hommes y viennent, généralement, sont au bout, là. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, puis c'est comme ils ont besoin de l'aide maintenant, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent. Puis là, si on dit, ben là, t'as pas d'aide, faut-il aller sur la liste d'attente, parce que là, nos fonds de donation, on a moins, ou, tu sais, faut qu'on attende, ça l'aide pas.
Mme Duguay conclut que les hommes ont parfois été témoins de violences dans leur enfance ou ils ont vécu un traumatisme tel que l'abus physique infligé par d'autres hommes, de même que la violence que les femmes infligent aux hommes est souvent psychologique. Un reportage de Pierre Floria pour l'Initiative de journalisme local.
Le Conseil scolaire acadien, le CSAP, est à la recherche de deux familles pour accueillir deux élèves guinéens dès février 2024. Karim Amedjkou, gestionnaire de programme d'élèves internationaux, fait valoir que c'est une formidable expérience humaine et culturelle, d'autant que le CSAP met à disposition des familles des ressources de soutien, les familles d'accueil qui reçoivent aussi une légère compensation financière pour recevoir les élèves. Adèle Gros-Perret a recueilli quelques-uns de ses commentaires.
On a deux élèves de la Guinée qui devaient arriver en fait au mois de septembre, mais pour des raisons administratives, ils seront avec nous à partir du mois de février. Donc en effet, on cherche donc deux familles d'accueil puisqu'on peut pas mettre les deux dans la même famille d'accueil. On essaie vraiment de placer chaque élève dans une famille différente pour lui permettre de bénéficier de la meilleure expérience culturelle. Donc deux, on cherche bien évidemment une famille d'accueil de février jusqu'à la fin juin 2024, mais tout en gardant en tête que ces élèves-là resteront avec nous pour une année de plus, voire deux. Le premier critère, c'est d'avoir envie d'accueillir un élève international parce que c'est tout de même une expérience humaine et culturelle. Ça, c'est numéro un. Et de bien évidemment avoir à la disposition de l'élève une chambre individuelle avec une fenêtre, avec un armoire, avec un petit bureau, voilà quoi, avec tout le reste, bien évidemment, pour permettre à l'élève d'être nourri, logé, de le mettre dans des conditions optimales pour qu'il travaille, quoi, donc pour qu'il travaille à l'école. Accès à l'Internet, bien évidemment, c'est d'accueillir un jeune qui fera partie de votre famille, quoi. Car l'élève arrive avec bien évidemment sa personnalité, il arrive aussi avec son bagage culturel, il arrive avec ses traditions, donc c'est toujours une invitation à voyager en fait. C'est ça nous permet un petit peu de d'épouser une culture pendant quelques mois ou pendant une année, dépendamment bien évidemment de la durée, mais ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle expérience d'échange culturel. Donc, c'est des élèves qui, ils ont choisi bien évidemment la Nouvelle-Écosse parce que c'est une petite province, parce que c'est une province assez accueillante. Notre système éducatif est un système qui met l'humain en avant, une éducation inclusive. Donc je vous dirais vraiment que nos élèves, notamment ces deux élèves-là, ils viennent pour chercher une éducation au secondaire puisqu'ils vont rester probablement pour un autre deux ans. Et c'est des jeunes souvent qui ont vraiment envie d'expérience culturelle. C'est des jeunes qui sont très sérieux, qui sont très engagés. Mais je peux comprendre que certaines familles hésitent un peu en disant « on ne le connaît pas, on ne sait pas ». Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est comme quand on voyage aussi. On a toujours une petite anxiété au début. Mais comme je dis là, on a vraiment des belles expériences de réussite pour les familles d'accueil.
Merci à Karim Ametchkou pour cette entrevue. C'était Adèle pour IGL. Halifax.
Et avant de passer à notre dernier sujet, quelques mots pour vous rappeler d'aller jeter un coup d'œil sur notre site web canada-info.ca. Vous rincez l'œil et le creux de l'oreille avec les reportages produits par des dizaines de journalistes en poste à travers le pays. On en cherche encore d'ailleurs quelques-uns et si cela vous intéresse, parlez-en au Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. En attendant, on vous suggère parmi d'autres reportages l'entrevue de Marine Ottogali avec le recteur de l'Université de l'Ontario français, Pierre Ouellette. Aussi, un autre reportage sur le nouveau laboratoire de chimie inauguré à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Iman El-Hadji y était. Et celui de Daniel Aucoin qui nous parle d'un arbre de Noël de la Nouvelle-Écosse qui a pris la route et qui sera sous peu planté, illuminé à Boston, Massachusetts. Une tradition qui se poursuit depuis 1941. L'arbre fait plus de 15 mètres de hauteur. Et pour conclure cette émission, on se rend au Québec où une résidente de Matagami signe deux livres pour enfants mettant en vedette des zombies, ceci, dit-elle, pour faire plaisir à son fils. Alors l'auteur Lise Diaz a publié deux livres à la mi-novembre, l'un en français, l'autre en anglais, les deux bouquins intitulés « Le joyeux Noël de Zaki le zombie » et « La fête d'anniversaire de Zaki le zombie ». Ils s'inspirent tous deux donc de l'intérêt que porte son fils, bien sûr, envers les zombies. Eh bien oui. Bon, ne vous en faites pas, ils sont adaptés pour la lecture et pour les enfants de 2 à 5 ans. Constatant donc sur Amazon l'absence de livres pour enfants avec des zombies, Lise Diaz a plongé et affirme s'être trouvée une nouvelle passion. Elle planche d'ailleurs sur un troisième bouquin, non, sans effusion de sang, sur le thème de la cuisine, cette fois pour les enfants. Michael Grandjean l'a rencontré.
Pour mon premier livre, Le joyeux Noël de Zaki le zombie, ça parle d'un petit zombie qui veut vivre la magie de Noël pour la première fois. Donc, il passe par plusieurs péripéties pour vivre pour la première fois la magie de Noël avec ses amis de son village. Le deuxième, c'est La fête d'anniversaire de Zaki le zombie. Le titre le dit, là, c'est l'histoire de la fête de Zaki le zombie qui fête sa fête avec ses amis dans une forêt enchantée.
Elle précise qu'elle a premièrement réalisé ses livres pour son fils, une inspiration qu'elle dit avoir eue au travers de moments difficiles.
C'est vraiment mon fils. Il a un penchant pour les zombies depuis une bonne année. Puis on met à jour souvent ses livres. On lit des histoires pour lui avant de se coucher. Donc, il m'a demandé un livre sur les zombies. J'ai fait une recherche sur Amazon et j'en ai pas trouvé du tout. J'ai vu l'enthousiasme qu'il y avait quand il a vu son livre. J'ai eu l'idée de le faire publier par Amazon. J'ai pris le risque et ça a fonctionné. J'ai fait la création de mon livre moi-même, de A à Z, et j'ai envoyé ma publication à Amazon. Eux, ils font des vérifications. Ça passe par une procédure de sélection et ils m'ont contacté à peu près une semaine plus tard pour me dire que mes livres avaient été acceptés.
Lise Diaz dit avoir trouvé sa passion.
C'est pas les derniers. Je suis en train de travailler sur un troisième livre. C'est pas par rapport aux zombies. Je vais revenir aux zombies plus tard. Là, je voudrais faire des livres de cuisine pour les enfants. Je cuisine avec mon fils depuis qu'il est tout petit. Mon inspiration vient 100% de mon fils. J'aimerais faire une mention spéciale à mon mari Nadim parce que la conception de ce livre-là n'aurait pas été possible sans son appui.
Un reportage de Michael Grandjean, Matagami.
Ben voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Nos journalistes aujourd'hui, Adèle Gros-Perrin, Michael Grandjean, Pierre Floréa, Vincent Lavoie, Daniel Aucoin et Marie Illès, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire. Ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenu compagnie. Faites de même avec ceux et celles qui nous suivent. À la semaine prochaine. Ciao!
Canada-info.ca.